De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, la semaine dernière, nous avions deux films avec des objets qui parlent. Et bien cette semaine, ce sont deux films avec la même actrice-réalisatrice, Monia Chokri. Et pour le film que tu as vu, Marine, elle est réalisatrice.
Oui, moi je vais vous parler de La femme de mon frère, un film que j'ai vu dans la sélection Un certain gars à Cannes et que j'ai beaucoup aimé.
Et moi, eh bien, je l'ai vu en tant qu'actrice dans Pauvre Georges, film de la française Claire Devers. Et toi, Manu, tu vas nous parler d'un réalisateur que tu aimes beaucoup au travers d'un documentaire.
Dario Argento, donc Soupir dans un corridor lointain de Jean-Baptiste Torré, à qui on devait déjà un excellent documentaire sur le cinéma américain, We Blew It.
Et puis comme c'est la dernière émission de la saison, eh bien on va faire un blind test spécial films qui sont sortis durant cette saison 2018-2019. Il y aura 5 extraits et ce seront forcément des films que nous avons chroniqués ici et majoritairement, voire exclusivement des films que nous avons tous appréciés. Et des films qu'on a appréciés, eh bien, il y en a qui vont sortir cet été et on en parlera, Marine.
Oui, moi, eh bien, une fois n'est pas coutume, tous les films que je vais aborder dans cette émission, eh bien, je les ai tous beaucoup aimés. Je vais également vous parler d'un film sud-coréen qui s'appelle The Gangster, The Cop and The Devil et un film français qui s'appelle Rêve de jeunesse.
Et puis toi, Manu?
Bah, j'évoquerai donc 4 films de nationalités différentes, les 4 d'ailleurs. Hein, Petite Forêt, Roro, L'Hospité et enfin un western irlandais, Never Grow Old.
Et puis moi, je vous parlerai du dernier Dépléchin, du film d'Ira Vax, Frankie. Et on parlera de Tarantino, Marine, parce que moi, je l'ai plutôt apprécié. Et
toi, moi, j'ai pas trop aimé.
Plutôt pas du tout. Allez, on débute avec Monia Chokri.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors, c'était sûrement une comédie.
Alors, c'est votre... deuxième avortement, c'est bien ça?
Mais le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment.
Est-ce que vous faites du sport?
Pas mal, quand même.
Donc, c'est votre petite amie qui va vous raccompagner après l'intervention?
Non.
Non.
Oui.
Enfin,
c'est-à-dire que c'est ma soeur.
Non, je suis sa soeur.
Dans La femme de mon frère, on rencontre Sophia qui, à la trentaine, elle est tout juste agrégée de philo, mais elle ne trouve pas d'emploi. Du coup, eh bien, elle se fait héberger par son frère en attendant, je cite, « de trouver un sens à sa vie et éventuellement un CDI ». Elle et son frère ont une relation fusionnelle, entourée de parents un peu déjantés, hein, qui sont séparés, mais qui vivent encore ensemble. Tout cela donnant lieu à des scènes de repas plutôt insolites. Et tout va se corser eh bien, le jour où Sophia se fait avorter et que Karim, son frère, tombe amoureux de sa gynécologue.
Quel genre d'individu détraqué drague le médecin qui vient d'avorter sa propre sœur?
C'est comment? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est très rigide au lit. Genre belle, mais potentiellement morte à l'intérieur.
Non, j'héberge ma sœur en attendant qu'elle trouve un sens à sa vie.
Pourquoi tout le monde demande à tout le monde s'il veut des enfants? Comme si on était en pénurie d'êtres humains.
C'est pas normal d'être toujours aussi gentil tout le temps. Très psychopathe comme comportement.
Alors c'est le premier film hein, de Monia Chokri qu'on avait découverte, nous Français, puisqu'elle est québécoise, en tant que comédienne chez Xavier Dolan. Pour moi, c'est un premier film vraiment plein de charme, très réussi, qui peut justement eh bien, faire penser au cinéma de Dolan pour la façon dont sont filmées les scènes de fête, les conversations à bâtons rompus, les scènes d'engueulade, dans le changement régulier d'échelle de plan aussi, et dans l'utilisation de la musique qui est vraiment jouissive. Alors le film peut agacer autant qu'il peut charmer. Concrètement, eh bien, on peut facilement détester en fait, tout ce qui, à mon sens, fait sa saveur. Hein. D'ailleurs, quand je l'ai vu à Cannes, en sélection Un certain regard, donc, les premières 20 minutes m'ont semblé assez pénibles, assez hystériques, avant que je sois finalement mais alors, complètement emportée par le rythme du film. Et c'est vrai que les dialogues sont extrêmement rapides, voire épuisants. Le grain de l'image assez terne confère pas vraiment une belle esthétique au film. Mais il y a une telle pertinence, une telle sensibilité dans le propos et un casting tellement énergique qu'on peut, à mon sens, qu'être séduit finalement. Et puis alors, il y a une vraie pluralité de ton. Même si l'on reste dans la comédie de mœurs, eh bien, Monia Chokri n'hésite pas à aller explorer l'émotion, l'absurde, les références à la nouvelle vague, l'onirisme, ce qui donne un ensemble assez audacieux et assez rafraîchissant. Monia Chokri, donc, qui est comédienne, comme je le disais, a préféré ne pas incarner le rôle principal. Elle a choisi Anne-Elisabeth Bossé pour endosser ce rôle de sœur un peu envahissante. C'est un excellent choix. La comédienne inconnue chez nous hein, est une vraie révélation. Autour d'elle, il y a quelques visages qu'on a déjà croisés au détour de films canadiens, tels que Evelyne Brochu, Micheline Bernard ou encore Patrick Yvon. Le film s'amuse beaucoup à travers sa mise en scène de l'ambiguïté des relations frères-sœurs. Il établit de façon pas toujours très subtile, c'est vrai, un parallèle entre relations amoureuses et relations fraternelles. Et c'est vraiment une réflexion à la fois drôle et sensible sur ces relations-là. C'est un film qui parle également d'une très jolie manière, je trouve, de l'adolescence. Et moi, je pense que c'est vraiment l'avènement d'une cinéaste à suivre. C'est peut-être un petit peu tôt encore pour le dire, mais c'est ce qui m'a semblé.
Alors, je suis d'accord avec toi, je l'ai vu dans la même salle que toi, et je suis d'accord sur l'hystérie. C'est vrai que c'est copieux en termes de dialogue.
Oui.
Une fois qu'on passe un certain stade, effectivement, c'est comme une musique. Mmh. Hein. Enfin, je veux dire,
on s'y plonge.
Ouais. Allez, Monia Chokri, il en est encore question, cette fois-ci dans un film où elle est actrice. C'est Pauvre Georges.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça.
Je crois que je méritais plus que ces sourires.
Vous êtes libre de le croire.
Les gosses de riches, vous auriez tort de gaspiller votre sympathie pour eux.
Et Emma, c'est un peu trop seul à la campagne ?
Elle a toujours détesté la ville.
Ça vous plaît l'enseignement ?
Parfois, j'ai l'impression que j'enseigne plus vraiment.
On avait laissé la lumière allumée ?
Assez énigmatique. Allez, Pauvre Georges est l'adaptation d'un roman de l'américaine Paula Fox publié dans les années 70 et qui est réapparu dans les années 2000. Pour Claire Devers, ce roman est une œuvre visionnaire qui décrit avec 50 ans d'avance la société des bobos et l'effondrement de la gauche et de ses valeurs fondatrices. Rien que ça. Le Georges du titre n'est pas pauvre au sens économique. Hein. Il s'agit d'un prof de français exilé au Québec et qui s'est installé avec sa femme à la campagne. Un projet pour y concevoir, pourquoi pas, un enfant. Sa vie à Georges prend un tournant quand il surprend dans sa maison un jeune homme de 17 ans qui se fait appeler Zach. Alors si au premier abord il a peur, lui-même même une rouste, il voit dans cet adolescent déscolarisé eh bien une aubaine pour donner un sens à sa mission de professeur. Dans son établissement scolaire, privé, il voit que les élèves ne s'intéressent pas à ses cours, la régression de leurs pensées l'attriste, et comme s'ils étaient des clients insatisfaits, eh bien ces élèves ne pensent qu'à contester leurs notes, insupportable d'ailleurs pour n'importe quel prof. Zach sera donc son projet et Georges va tout faire pour qu'il aboutisse au point de négliger son entourage. En premier lieu, sa femme, donc interprétée par Monia Chokri, qui voit bien que l'arrivée de ce gamin, d'on ne sait où, eh bien, est une menace pour le couple. Zach a l'habitude de s'introduire dans les maisons, non pour y voler des objets, mais par pure voyage. Se placer dans un environnement qui lui est étranger, connaître la vie des nantis, leur histoire de couple, leur histoire de sexe. Alors autant de choses qu'il prendra soin de raconter à un Georges outré au gré de leur séance d'apprentissage. Et ce Georges, eh bien, il est interprété par Grégory Gadebois, qui est impeccable. À la manière de Théorème de Pasolini, Zach est un personnage sur lequel bien chacun place ses fantasmes et sa présence suffira à faire éclater ce petit écrin de sociabilité à la campagne. Écoutons un dîner entre voisins.
On a eu un visiteur surprise.
Comment? Vous avez été cambriolé?
D'après Georges, le gars était juste là, c'est tout. D'après Georges, il voulait de l'aide pour ses devoirs. Georges croit à ça l'innocence, pas moi. Ben, pas avec ce jeune-là. En tout cas, il était assez grand pour un jeune.
T'es pas si grand. Mais là, c'est un gars de par ici. Vous devriez faire très attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté dans le coin. Il y a beaucoup de délinquants là, qui traînent dans les parages.
Il a quel âge?
17 ans, je dirais. C'est un gamin qui a des problèmes scolaires. Mais comment il a su que vous êtes enseignant? Je veux dire, il n'est pas arrivé chez vous comme ça par hasard. Hein? Je peux m'enseigner, si vous voulez. Comment il s'appelle? Je connais à peu près tous les policiers dans le secteur, hein, chérie. Je veux pas m'enseigner sur lui.
Mais c'est quoi votre but, Georges? Hein? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour lui?
Je suis enseignant. Je me suis dit que je pouvais faire quelque chose.
Pauvre Georges est un film bavard, cela est dû aux différentes interactions que peut avoir le personnage, et toute la mise en scène eh bien, s'articule autour de Georges qui prend les traits d'un personnage tragicomique au vu de la difficulté de son projet, de sa femme évidemment, à sa voisine alcoolique en passant par son collègue professeur qui a lui décidé de se battre contre les élèves plutôt que de renoncer, eh bien chacun de ses interlocuteurs va mettre en doute son entreprise, mais nous perdre un peu aussi. Ce qui intéresse la réalisatrice n'est pas tant la réussite d'un sauvetage d'un garçon déscolarisé, que la faillite d'un monde adulte qui a abandonné et qui a fini par perdre ses valeurs. Alors il y a tout de même de bons passages entre Georges et Zach quand celui-ci eh bien, reçoit de son professeur improvisé autre chose que de la bouillie et quand ce professeur se met à proposer eh bien, de l'éducation active en bâtissant une pyramide avec des petits sucres. Voilà, c'est un exemple. Voir Pauvre Georges, c'est voir comment un homme qui a perdu son éclat mais pas son altruisme finit par se dépeupler de tout son monde à force d'obstination. Même s'il s'agit aussi du portrait d'une frange bourgeoise de la population, le film aurait gagné à se resserrer sur le personnage principal, même si l'on découvre quelques personnages carrément insupportables et d'autres attachants, comme le prof joué par Stéphane de Groot, qui fait intervenir eh bien, des questionnements intéressants sur l'éducation. La présence des enfants qui sont obèses ou débiles, soit les deux, comme les intérieurs des maisons qui caractérisent eh bien, trop simplement les personnages, sont autant de surlignages un peu inutiles. Alors c'est sûrement là aussi que le film se perd dans l'abondance de ses protagonistes, si bien que le récit s'étire un peu trop en longueur sans apporter de plus-value, si ce n'est eh bien, que chaque personnage, on a l'impression que c'est ça, hein, doit au bout d'un moment dire sa phrase bon, voilà, qu'il va donner au personnage principal. Pauvre Georges, c'est en salle depuis le 3 juillet. Alors, c'est un film où on entend du québécois qui est tourné au Québec, mais qui en fait est tourné par une Française, Claire Dever. Allez, on passe maintenant à Dario Argento.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Alors, Dario Argento soupire dans un corridor lointain. Alors, à défaut de convaincre entièrement, articule sa réflexion autour d'une approche pertinente liée à une temporalité fragmentaire, qu'une lecture d'ailleurs superficielle pourrait en fait détourner des véritables intentions. Jean-Baptiste Auray, hein, auteur du remarquable We Blew It, propose une expérience singulière en rassemblant deux parties distinctes, alors tournées à près de 20 ans d'écart, l'une en 2000 à Turin et l'autre en 2019 à Rome. Alors très différents sur le fond et la forme, hein, les deux documentaires sont rassemblés, alors non pour des raisons opportunistes, mais pour étayer un discours empreint de mélancolie. Qu'est-ce qui a changé entre le début des années 2000 et aujourd'hui ? Quel regard porte Dario Argento sur le cinéma lorsqu'il se penche sur son passé ? Alors, alternant les propos en interview de Dario Argento captés pendant le tournage de No Ono Sono et la voix off de Torre qui offre une lecture analytique, synthétique et brillante de son cinéma, la première partie du documentaire, alors convenu dans une forme épousant, on va dire, un style un peu télévisuel, hein. Le film est passé sur Arte d'ailleurs, hein, au début des années 2000. En fait, voilà, permet néanmoins aux néophytes de mieux saisir l'importance des enjeux esthétiques à l'œuvre chez l'auteur de Suspiria. Alors, Torre décrypte en quelques phrases ce cinéma unique et transgressif, bah, capable de souffler le chaud et le froid, le sublime et le trivial, de saisir l'étrangeté du réel par une inspiration plastique réfléchie et instinctive. Jean-Baptiste Torre délivre un texte remarquable, pointu et pourtant accessible, hein, pourtant maintes fois repris par les critiques depuis. On a l'impression qu'il ne s'adresse non pas à une poignée de fans irréductibles, mais à un public hétéroclite, hein, ouvert à la curiosité. Alors, ce qui rend précieux, bah, cette première partie, tournée en 4 tiers et puis donc diffusée à la télé à l'époque. Le film est agrémenté aussi d'images de tournage de son film d'époque, No Ono Sono, et de l'intervention intéressante de la monteuse de l'époque, Anna Napoli. Alors, ce hors-d'œuvre, hein, sert de tremplin à une deuxième partie émotionnelle résolument tournée vers le passé. Et pourtant, on retourne au présent, hein, en février 2019, avec une suite qui débute alors dans un magnifique formascope en montrant au loin l'artiste franchissant l'entrée d'un parc. Alors, le lyrisme d'une partition musicale à la manière de Georges Delerue est composé par Torre lui-même. Hein. La succession de plans sophistiqués, de la nature, la beauté du noir et blanc laisse entrevoir les intentions radicalement opposées de ce que l'on a vu jusque-là. Torre veut injecter du cinéma, tenter d'épouser l'esthétique du maître, se confronter à l'histoire même du cinéma italien, rien que ça. Alors, l'ouverture n'est pas anecdotique, hein, puisque Argento est interviewé dans un parc. Évocation immédiate d'un des mentors du cinéaste, Antonioni, qui est cité d'ailleurs à maintes reprises par la suite. Hein. On pense effectivement là à Blow Up, qui est un peu l'œuvre fondatrice pour Argento. Alors curieusement, Argento évoque moins le cinéma, enfin son cinéma surtout, que la vie, où le cinéma à travers la ville propose une sorte de bilan, célèbre la beauté de ce qui nous entoure, en parlant en vrac des insectes, de l'apaisement de la nature, de son goût pour les musées, de l'art en général, sa passion pour l'alchimie et l'architecture. Il évoque aussi l'histoire sociale et politique de l'Italie, son enracinement à gauche. Alors on découvre un homme chaleureux, émouvant et nostalgique, alors sans une once de rancœur. Torre filme le portrait touchant d'un artiste qui préfère parler de ses inspirations plutôt que de ses films. Il est certes fatigué, mais pas résigné. Le journaliste s'efface devant l'image d'un homme bouleversant lorsqu'il visite le décor en ruine de ténèbres. Alors là, taiseux, Torre essaie, et là, il parvient vraiment à ce moment-là, sans doute le plus poignant du documentaire, de coller à l'inspiration formelle de Argento. Il élabore de complexes mouvements de caméra, intégrant un découpage habile, jonction entre passé et présent, alors faisant ressurgir de fortes émotions. En revisitant en fait, une villa abandonnée, lieu où vivait d'ailleurs, dans le film Ténèbres, c'était l'assassin qui vivait là, Argento constate la disparition, alors non pas de son cinéma, mais plutôt de façon plus générale, de tout un pan de l'histoire du cinéma italien qui fut sans doute l'un des plus beaux, les plus riches, les plus inventifs avant que la télévision ne détruise tout. Alors ça, pour schématiser, hein. Le constat est terrible, mais Argento ne s'apitoie pas sur son sort, il est simplement affecté de se retrouver au milieu de ce no man's land qui fut jadis l'une des fiertés de l'habitat moderne italien. Alors les autres films évoqués vont dans le même sens, hein, Inferno, Suspiria et Profondo Rosso sont abordés par Argento à travers les lieux même. Enfin, par exemple, pour Profondo Rosso, on part de l'école où a étudié Argento quand il était en primaire. Alors, l'ambition de Torre bute parfois devant une grandiloquence un peu agaçante, une ambition un peu naïve s'emparer du 7e art pour faire un peu le contraire de la première partie, c'est-à-dire de faire autre chose que du documentaire. Le choix du noir et blanc paraît aussi artificiel, un petit peu poseur, surlignant un peu une mélancolie qui est pourtant présente avec la simple présence d'Argento, en fait. Hein. Mais Torre touche à l'intime et réussit un hommage sincère et vibrant sur un des créateurs de ces 50 dernières années.
Voilà, donc dans quelques cinémas, documentaire sur Argento.
Surtout, c'est que Torre va accompagner ce documentaire.
Avant de revenir aux films qui vont sortir pendant cet été, on va parler de la saison écoulée 2018-2019 en jouant un blind test.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
5 extraits de films qui sont sortis cette année. Premier extrait à découvrir.
On ne devrait pas se dire les uns aux autres que tout va s'arranger ? Que tout ça va s'effacer comme un cauchemar ? Ronnie ?
Le truc, Mindy, c'est que je suis pas sûr de pouvoir l'affirmer.
Cliff ? Tu peux le faire ?
Tout va s'arranger, t'inquiète, Mindy. Peut-être que tout ça va s'effacer. Comme un cauchemar.
Ambiance un peu neurasthénique, c'est...
Le Jarmusch, The Dead Don't Die.
Ouverture de Cannes, 330 000 spectateurs en France.
Salé. C'est saisissant, on sent presque le sel.
Eh, ça va, j'ai dit que c'était salé, quoi. Trop salé, c'est tricher. N'importe quel chef peut mettre du sel. Faire un bon plat sans mettre de sel, rien qu'en faisant ressortir les saveurs, ça, c'est la classe. Faut d'abord mettre les bons ingrédients.
Nous ferions mieux d'y aller si nous voulons arriver à Pittsburgh pour le dîner.
Tiens, quand j'étais à l'armée, j'ai connu un gars de Pittsburgh. Sauf qu'il disait « Tétisburg ». Il disait que les habitants avaient de gros tétés.
C'est absurde. Les femmes de Pittsburgh n'ont pas de plus gros seins que les femmes de New York.
On verra quand on y sera, hein.
Et donc c'est trouvé.
Green Book de Peter Farrelly.
Oui, plus de 2 millions d'entrées en France.
T'as bien fait ta visite médicale ?
Ouais, c'est bon.
Vous prenez pas l'antidépresseur, vous, au moins ?
Non.
C'est dépistable dans les urines, hein ? J'entraide le SNLE. C'est pas la croisière s'amuse. Votre mission, c'est d'être prêt à tirer un missile en moins d'une heure sur ordre du président. Oh, vous êtes l'assurance vie du pays.
Reçu.
3000 ans de civilisation n'ont pas amené la paix à l'univers. Seule la dissuasion.
À condition pour que cette dissuasion soit efficace, que les marins ne soient pas trop bavards.
Diwel Didrouz, Maron Paden.
Allez.
Qu'est-ce que c'est ?
La devise du SNLE. Ta nouvelle maison. Invisible et silencieux, je porte la mort.
Ça a été trouvé, Marine.
Ah, c'était le chant du loup, avec Omar Sy qui n'est toujours pas bon. Toujours pas.
Et il avait en face de lui, là, François Civil, 1,5 million d'entrées en France.
Je suis prête pour l'ambassadeur de Russie.
Qui vous a maquillé ?
Nous voulions un effet théâtral, vous aimez ?
On dirait un blaireau.
Oh.
Vous n'allez pas pleurer, franchement. Bien. À quoi ressemblez-vous, alors ?
À un blaireau.
Pensez-vous vraiment recevoir la délégation russe avec ce masque ? J'en fais mon affaire. Rentrez dans vos appartements.
Merci.
Ça a été trouvé, Marine.
Oui, c'était Olivia Colman et Rachel Weiss, la favorite.
Oui, de Yorgos Lanthimos. Et c'était à presque 500 000 entrées en France. Dernier extrait.
Qu'est-ce qui s'est passé, là ?
Bah, je sais pas. On s'est fait agresser.
Non, mais tu te fous de moi ? T'as vu dans quel état ils sont ? Et c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça ?
De quoi tu parles ?
Mais attends, mais on avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. T'avais l'air d'un psychopathe. Putain, mais regarde ça, t'as encore du sang plein à la bouche.
Oh.
Ça va, monsieur ?
Pardon, oui, t'as parfaitement, madame. J'ai fait 8 ans de trou, 8 ans de ma vie pour rien. Tu vas pas m'emmerder pour 3 paires de baffes ou un sac à main.
Ah, mais c'est ça l'excuse ? J'ai fait 8 ans de tôle, je suis innocent, j'ai le droit à 8 ans de conneries. J'ai le droit de crever les yeux de pauvres types dans la rue, de leur péter les dents, de brûler les yeux de ces gamines, de scalper des vigiles sur le trottoir. Non mais tu te rends compte que t'as bouffé le règle de ce mec?
Bon, ça a été trouvé. Audrey Tautou.
C'était en liberté.
Audrey Tautou et Pio Marmaille dans cette séquence de Pierre Salvadori en liberté qui a réuni 775 000 spectateurs en France. Film sorti le 31 octobre 2018 puisque nous jouions un blind test des films sortis sur la saison de Cinérama 2018-2019. Allez, on vous parle maintenant des films de l'été.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors l'été sera long, il sera bon et surtout dans une salle de cinéma. On a vu quelques films cet été qu'on va vous conseiller, surtout toi Marine, il y en a deux que tu as aimé.
Oui, tout à fait. Alors je vais vous parler de L'adolescence tout à l'heure dont il était question dans La femme de mon frère. Eh bien Rêve de jeunesse qui faisait l'ouverture de la sélection Acide de Cannes parle également de ce sujet. C'est le nouveau film de Alain Raoust, un cinéaste engagé et assez inclassable à qui l'on doit notamment L'été indien ou La cage. Ici, il s'attache à dépeindre cette période floue précédant l'âge adulte à travers des personnages qui se cherchent, se perdent et se demandent si à force de ne pas rentrer dans les cases, eh ben, ils ne seraient pas finalement en train d'inventer une nouvelle façon d'être adulte. Alors il est question de rébellion contre l'ordre établi, d'engagement artistique, social, politique. Il est question de fuir, de se retrouver, de se trouver tout court. Tout cela dans les décors sublimes des gorges du sud de la France, des paysages qui créent une ambiance de western moderne autour de deux personnages féminins qui vont se rencontrer, s'affronter et s'apprivoiser. Ces deux personnages sont interprétés par un binôme de comédiennes très complémentaires et à l'énergie foudroyante. D'un côté, on a Salomé Richard qu'on a découvert dans Baden Baden et de l'autre, Estelle Meyer qui fait furieusement penser à Camilla Jordana et c'est un compliment, qui est comédienne mais également musicienne et chanteuse. C'est un film qui est beau dans le fond, dans sa forme. C'est un film qui a le courage de ses opinions et qui vraiment dans sa vision de la jeunesse fait du bien. Il sort le 31 juillet 2019 sans transition aucune. The Gangster, The Cop and the Devil. Alors je ne comprends vraiment pas pourquoi ni comment ce film du cinéaste coréen Lee Won-tae, totalement inconnu en France, qui a plutôt réalisé des films mineurs jamais projetés chez nous. On ne sait pas très bien comment donc ce film s'est retrouvé hors compétition au Festival de Cannes il y a 2 mois. Mais j'ai envie de vous dire, si c'est un accident, eh bien c'est un accident extrêmement réjouissant. On peut sans doute attribuer ce choix à la volonté du festival de se décoincer un petit peu cette année avec des films de genre, des sorties de route volontaires qui ont composé une programmation cannoise plus diversifiée qu'à son habitude. Alors une histoire assez classique compose ce thriller qui nous vient donc de Corée du Sud. Un jeune et impétueux inspecteur de police traque un dangereux serial killer et va se voir obligé de s'allier à un caïd de la pègre pour réussir à l'arrêter. L'histoire s'articule donc autour de ce trio de personnages foncièrement différents, réalisé comme un film de série B avec beaucoup de violence gratuite, de second degré de recherche dans l'esthétique visuelle. Le film est alors mais un pur plaisir de cinéma. Évidemment, si vous êtes allergique aux dents qu'on arrache, aux coups de marteau dans la tête, aux giclées de sang, bon, n'allez pas voir le film. Je vous encourage plutôt à vous orienter vers Aladdin. Bien sûr, côté personnage, on est dans le stéréotype total. Niveau interprétation, on est dans l'outrance assumée, mais tout fonctionne. Si tant est que l'on est un peu de second degré et que l'on considère ce film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un polar qui ne se prend pas la tête, qui ne se prend pas au sérieux, mais qui regorge de bonnes idées de mise en scène, qui ne cherche à véhiculer, mais alors absolument aucun message. On est juste là pour le plaisir des yeux. Et en 2 heures, le rythme ne faiblit jamais. Je ne sais pas si ce que je vais vous dire est un argument en faveur du film, mais je vais conclure en disant quand même que Stallone a acheté les droits pour en faire un remake américain. Et ça sort le 14 août et je vous le conseille vivement.
Merci. 3 films cannois pour un été en ce qui me concerne. Alors on commence avec le dernier film de Desplechin, Roubaix, une lumière. Un film qui, me semble-t-il, a été totalement éclipsé par un autre, Les Misérables de Ladjili. L'un a vraiment bénéficié de la lumière et a remporté un prix. L'autre a bénéficié d'une certaine politesse et bienveillance. Alors je les rapproche car les deux nous placent au contact de policiers dans un quartier populaire. Pour Les Misérables, eh bien, c'est la banlieue parisienne. Pour Desplechin, c'est Roubaix, une ville qui a fait l'objet d'une mutation sociale et économique. Alors on est dans la période de Noël. Un nouvel inspecteur arrive à Roubaix tandis qu'une vieille dame vient de se faire assassiner. Les deux voisines toxicomanes, alcooliques et amantes, Léa Seydoux, Sarah Forestier, se font arrêter et vont devoir s'expliquer. Alors, durant tout le film, on va démêler le vrai du faux aux côtés du jeune Antoine Reynars et du vieux loup Roche-Dizem en guise de commissaire à qui on ne la raconte pas, d'autant que le quartier sur lequel il veille, eh bien, c'est celui de son enfance.
Vous savez toujours, vous, si un suspect est coupable ou innocent?
Toujours.
Comment vous faites?
Je sais pas. J'essaie de penser comme eux.
Alors l'ambiance est particulièrement glauque, hein. On est dans les bas-fonds de la ville, une vieille dame meurt pour presque rien. Et accompagnant la détresse économique et sociale, on a aussi un aperçu de la détresse sentimentale au travers d'un polar mélancolique, noir, dans lequel souffle eh bien, le romanesque avec des personnages qui ont une vraie personnalité. La mise en scène est sobre et la direction d'acteur, alors là, impeccable, avec un commissaire qui parvient à obtenir des aveux donc en trouvant la lumière chez chacun des suspects. Alors évidemment, ça n'est pas Les Misérables de la Gilly, hein, c'en est même l'antithèse. Il ne s'agit pas ici de dire si la police fait bien ou pas son travail, mais de regarder une ville et ses habitants. Voilà. Alors, il faudra attendre le 17 juillet pour voir en salle ce dernier Desplechin. Autre film de la compétition qui n'a rien reçu, Frankie de l'américain Ira Zax avec Isabelle Huppert, actrice renommée qui rassemble les siens à Sintra au Portugal car elle est très malade. Alors que dire si ce n'est qu'une impression de vacuité hein, vous envahit à la vision de cette réunion de famille assommante. Isabelle Huppert a beau être là, eh bien, ça ne suffit pas à donner une quelconque étincelle à ce récit qui est de plus malmené. Le franc soleil côtoie la pluie au même moment en toute incohérence, mais vraiment, la séquence finale qui se veut éloquente est totalement inutile. Alors on dirait que c'est sorti de la mise en scène pour les nuls, exercice pratique numéro 1. Comment disposer mes personnages dans un même plan et rendre compte de leur état? Alors c'est assez rare, mais je crois qu'il n'y a rien de bon, mais vraiment rien de bon dans ce film qu'on nous vendait comme un drame teinté bien d'un air de comédie venimeuse. Quand même, je vous ai dit quand ça sort, ce sera le 28 août, Frankie d'Ira Zax.
Bien, Rick, expliquez donc à nos téléspectateurs à quoi sert un cascadeur.
Un acteur est amené à faire un tas de choses dangereuses. Il me remplace quand j'ai un coup de mou.
Cliff, est-ce que cela décrit bien votre travail?
Quoique je le remplace quand il est mou. Ouais, on peut dire ça comme ça.
Alors évidemment, on a changé de film. Hein. Le dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Le film très attendu, au contour assez flou, mais où bien évidemment, durant les 2h40 du film, on est plongé dans l'univers de Tarantino, mais quand même à demi. Alors il faut bien l'avouer, comme toujours, il y a une certaine légèreté, mais il y a un style qui fait tout passer. Le prétexte était plutôt alléchant. On suit Rick Dalton, donc une star de feuilleton télévisé et sa doublure, le cascadeur Cliff Booth. On a là déjà respectivement Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, qui livrent tous deux une belle prestation, mais plus encore DiCaprio, qui doit jouer un acteur mis sur le côté qui doit se surpasser pour rester dans le coup à Hollywood, une bouteille d'alcool jamais loin de lui. Cela nous donne quelques séquences vraiment, vraiment impressionnantes. Alors après, le réalisateur américain nous place à une époque charnière, hein, 1969, les Beatniks, il y a Easy Rider qui pointe son nez et on est là en présence de la vieille garde du cinéma. Alors il y a sans doute une part de virtuosité dans ce dernier Tarantino, mais aussi une part d'étrangeté car on est là qu'à demi-certain d'être en face à un Tarantino, enfin ce qui me concerne. Tout semble dans la demi-mesure entre la carte postale nostalgique d'un Hollywood flamboyant et l'émergence des biens d'un autre cinéma, et puis la contestation des années 70. Et puis bon, il y a quelque chose que tu as vraiment détesté, Marine, parce qu'on l'a vu ensemble. Et voilà.
Moi, je trouve en fait voilà, que dans une ère post-MeToo, c'est quand même un film assez problématique par rapport à la place de la femme. Tu parlais d'une certaine légèreté. Moi, j'ai trouvé que c'était d'une lourdeur sans nom. En fait, j'ai trouvé que vraiment Tarantino faisait preuve d'une grande complaisance par rapport à son propre cinéma, qu'il n'y avait aucune audace, qu'il ne se mettait absolument pas en danger, qu'il n'était pas inspiré, que c'était extrêmement bavard, extrêmement long, extrêmement mou, extrêmement ennuyeux. Mmh. Voilà.
Manu, tu as vu 4 films, toi?
Oui, le premier, un film coréen qui sort le 3 juillet, alors adapté du manga japonais de Daisuke Igarashi, Petite Forêt, 8e long métrage de la réalisatrice Yime Sunrai, et le joli portrait d'une jeune fille de 20 ans, sans travail, à la dérive sur le plan sentimental, ayant abandonné ses études. Elle décide de fuir la vie citadine, laissant ses problèmes derrière elle pour aller vivre dans son village natal. Elle retrouve ses amis d'enfance, des parfums oubliés, un environnement apaisant, loin du bruit et de la fureur citadine. Alors cette ode panthéiste à la nature et au bien vivre ensemble échappe à la mièvrerie grâce à une mise en scène élégante qui retrouve la précision graphique de la BD et aussi grâce à la fraîcheur des jeunes interprètes tous remarquables. Autre film qui sort donc le 3 juillet, hein, Roro, grosse déception pour le film argentin de Benjamin Neistat, qui situe donc le film en 75 pendant la dictature. Hésitant maladroitement entre l'enquête policière et le cinéma politique, Roro échoue sur les deux tableaux. La partie thriller est plombée par un récit heurté et nonchalant, malgré l'apparition d'un truculent personnage, une sorte de Columbo argentin bousculant le quotidien du héros. Et enfin, la dimension politique, elle est dénuée de la moindre analyse, hein, la situation critique de l'Argentine n'étant finalement qu'un décorum, support esthétique à une intrigue guère palpitante. Alors, tout aussi faible, un autre film, un film italien qui sort donc le 17 juillet, L'Ospite, soit en français L'Hôte. C'est une comédie dramatique inspirée, on va dire, des premiers films de Nanni Moretti et de certains Woody Allen. Alors, platement mise en scène à la manière d'une sitcom et interprété par une troupe de comédiens plutôt séduisants, ce second long métrage manque clairement d'ambition et de panache en dépit d'une fin teintée d'amertume rehaussant légèrement le niveau. Alors, un pur divertissement estival, enfin inodore, incolore et inoffensif, hein, qui enfonce un peu plus le cinéma italien dans les abîmes de la perdition. Mais avec la chaleur et le ramollissement des cerveaux, parions que le film peut peut-être faire son petit effet. Enfin, finissons avec un film à l'opposé, le remarquable Never Grow Old, western irlandais crépusculaire, dans la lignée d'Impitoyable. Alors, dans une petite ville pauvre des États-Unis, la paix est assurée par un pasteur prêchant la bonne parole à de pauvres colons ayant du mal à vivre. Dans ce contexte, vit une famille dont le chef de famille est charpentier croque-mort. Malgré les conditions de vie difficiles et le poids de la religion interdisant l'ouverture d'un saloon, le calme règne jusqu'au jour où débarque une figure du mal, Dutch Albert, campé par un John Cusack impressionnant. Bah, il va faire régner la terreur sur la petite ville, incitant les habitants à la débauche et n'hésitant pas à descendre le premier quidam qui s'oppose à sa vision. Alors progressivement, le chaos règne en maître. Ian Kavanagh, le réalisateur, réussit donc un western sombre, boueux, alors souvent filmé de nuit, bénéficiant d'une photographie splendide, quasi expressionniste. La violence sans concession, elle éclate dans une dernière demi-heure d'une brutalité inouïe. Alors rien à dire, hein, c'est du bon cinéma à l'ancienne qui se termine logiquement dans un bain de sang suintant la mort et la souffrance. Ce qui est idéal pour le 9 août.
Merci Manu. Voilà, vous avez presque 10 films pour votre été.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
On vous remercie si vous avez suivi Cinérama pendant toute la saison 2018-2019. On espère vous revoir à la rentrée. Passez un très très bel été.